pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans trêve.
Salut à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Primitive. J'espère que vous passez un très bon dimanche. Nous sommes ensemble pour une heure. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du crush. Et nous allons questionner la sociologue Christine Détré, qui a paru un ouvrage sur ce sujet en 2024, aux éditions Flammarion. Qu'est-ce que le crush? En quoi se distingue-t-il du flirt? En quoi vient-il codifier les relations chez les jeunes de 12 à 25 ans? C'est ce que nous allons voir. Avant ça, on s'écoute ensemble Crush 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 de Paramore, un titre de 2007, extrait de l'album Riot, un titre qui aborde les thèmes de désir, de frustration, de manipulation émotionnelle dans les relations. Et on se retrouve juste après avec notre invité du jour. Christine Détré.
Bonjour Lorraine.
Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui pour votre ouvrage qui est paru en 2024, Crush, fragment du nouveau discours amoureux aux éditions Flammarion. Alors on va parler pendant une petite heure de cet ouvrage-là, de ce sujet en particulier, le sujet du crush. Qu'est-ce qui vous a, vous-même en tant que sociologue, je peux vous laisser vous présenter en même temps, qu'est-ce qui vous a amené à étudier ce sujet-là?
D'accord. Alors effectivement, ça, c'est important que je me présente en même temps puisque je suis sociologue et les enquêtes, livres, travaux que j'avais fait avant portaient beaucoup sur d'abord la sociologie de la culture, après la sociologie du corps, sociologie du genre et puis bah là récemment les émotions et notamment le crush. Et donc si je précise culture, corps, genre et aujourd'hui émotions et crush, c'est pour montrer un peu l'axe transversal qui est que en fait une interrogation de tout ce qui paraît évident et de tout ce qu'on va vite juger comme étant relevant du personnel, de l'individuel, du naturel. Et donc c'est le cas avec le corps. Hein, on va dire le corps, voilà, on a tel ou tel corps parce que c'est la morphologie, etc. Le genre, on entend encore que on est fille ou garçon parce que ce sont nos chromosomes, etc. Culture, de la même façon, quand on peut dire les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, ça, c'est hyper individuel, hyper personnel. Et le crush, pour moi, c'était, après j'expliquerai pourquoi je suis arrivée à ce terme-là, mais de façon plus générale, je travaillais sur l'amour et l'amitié. C'était ce qui m'intéressait dans les recherches que j'étais en train de faire. Et là aussi, de se demander quelle est la part du social, de l'historique, du construit, dans quelque chose qui paraît là aussi hyper personnel, individuel, l'amour ou l'amitié. Et donc j'étais vraiment dans cette interrogation-là et à l'ENS, donc moi je suis prof à l'ENS de Lyon et on a la chance d'avoir un enseignement qui est très ouvert et notamment de faire un cours qui s'appelle « Initiation à la recherche par la recherche » où on fait une enquête avec les étudiantes et étudiants. Donc on faisait une enquête sur amour et amitié auprès des enfants. Et en fait, on n'arrivait pas à attraper vraiment. On posait des questions, on avait fait une grille d'entretien, mais imaginez, on vous demandait à un enfant de 10-11 ans, c'est quoi l'amour pour toi, c'est quoi l'amitié. Enfin, vous voyez, très vite, oui. ça tombait un peu à plat, en fait. Et dans un entretien, un peu un entretien exploratoire, une étudiante arrive et dans l'entretien, il y avait une petite jeune fille qui disait « Oui, j'ai eu un crush et puis le crush, je l'ai mis au congélateur ». Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, ouais. Mais j'avais aucune idée. J'ai dit, mais c'est quoi du poisson pané? Enfin, c'est un surgelé. Enfin, vraiment, voilà. Et donc, c'est parti de là, en fait. Parce qu'ils ont éclaté de rire, les étudiants. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment ça se fait qu'il y a un terme, un mot qui a l'air aussi important pour eux et que moi, j'avais jamais entendu?
Ouais, vous connaissiez pas au départ le terme crush, en fait. C'est ça qui est.
Non, alors, depuis, je le vois partout. Alors, je me dis, est-ce que c'est parce que maintenant je sais ce que c'est et du coup je le vois, voilà, tout simplement. Ou est-ce que depuis 4-5 ans quand même que j'ai fait l'enquête, le terme s'est vraiment diffusé et vraiment répandu. Mais à l'époque, effectivement, avec cette phrase, quand il y a eu cette phrase « moi j'ai eu un crush et puis je l'ai mis au congèle », je savais absolument pas de quoi elle parlait. Quoi.
Ouais. Et du coup, ce terme-là, vous dites son importance, l'importance des mots et du sens qu'il y a derrière ces mots. Et en fait, on le retrouve quand, au tout départ, le mot crush, on en parle, vous en parlez aussi dans le livre, l'historique un peu du mot. Vous parlez aussi de la comédie musicale, je sais plus exactement le nom, mais ça va me revenir. Mais il y a une chanson en 1928, I've Got a Crush on You.
De Sinatra.
De Sinatra, voilà. Où il y a déjà le terme crush qui est présent à cette époque-là. Mais au fil du temps, évidemment, le terme a pris un sens complètement différent par rapport à cette époque-là.
Oui, alors c'est vraiment important que vous souligniez ces deux points. C'est qu'à la fois, un même mot peut traverser les siècles et vouloir dire des choses très très différentes. Alors par exemple, je compare beaucoup avec flirt parce que flirt, c'est un mot par exemple qui arrive en France à la fin du 19e et en un siècle, il change complètement de sens. Il y a un autre exemple que j'aime bien parce qu'il est presque encore plus étonnant pour nous, c'est un collègue historien qui s'appelle Thomas Dodman. Thomas Dodman, mais maintenant il enseigne aux États-Unis, donc je le dis un peu à l'américaine, Thomas Dodman, et il a fait un livre sur la nostalgie et il montre comment la nostalgie en en deux siècles, en trois siècles, ça change complètement de sens parce que fin du 18e, la nostalgie, c'est une maladie dont on meurt, en fait. Et c'est une maladie professionnelle parce que c'est la maladie des soldats, en fait.
D'accord.
Et il montre toute l'évolution du sens du mot nostalgie. Aujourd'hui, bien évidemment, qu'on ne dit pas du tout que c'est une maladie professionnelle,
oui.
Alors qu'à l'époque, voilà, il y avait des symptômes, il y avait des traitements, etc. Et Crush, c'est un peu la même chose. Donc, c'était se dire… parce qu'en fait, l'énigme au début, c'était de me dire, est-ce que Crush… c'est juste un mot que les jeunes emploient aujourd'hui, mais de mon temps, dans ma génération, ça, il y avait un autre mot pour dire la même chose. Ou est-ce que il y a un nouveau mot parce que il y a une nouvelle étape dans les relations amoureuses, ou bien tout simplement un autre sentiment qui n'est pas vraiment de l'amour, etc. Donc j'ai fait effectivement cette petite recherche étymologique. Et alors j'ai pas du tout prétention à avoir fait vraiment de façon exhaustive cette étymologie du mot, mais ce qu'on trouve dans ce qui a déjà été fait, c'est que le mot alors viendrait de l'ancien français, d'ailleurs comme flirt hein, qui vient de conter fleurette, et crush ça viendrait d'un verbe de l'ancien français qui est croissir, qui veut dire casser,
oui.
etc. Ça part aux États-Unis. Et là, effectivement, on le voit dans des premières publications fin 19e, et surtout. Oui. On le voit arriver, et ça, c'est vraiment passionnant, on le voit arriver dans les premières universités ouvertes aux filles, en fait, ouvertes aux jeunes femmes.
Oui.
Donc, le tout début du moment où les études supérieures sont ouvertes pour les jeunes femmes. Et crush, à l'époque, c'est complètement… ça fait partie du folklore estudiantin féminin. C'est le fait d'avoir… une sorte d'admiration, d'émulation par rapport à une étudiante du rang au-dessus, de la classe au-dessus. Et puis, vous lui portez son cartable, vous lui achetez des chocolats de temps en temps, vous lui portez ses livres, etc. Mais il n'y a rien d'amoureux, en fait. Et c'est une forme, je me suis dit, en analysant ça, je me suis dit, c'est sans doute une forme de socialisation, enfin, ouais, pour employer un terme de sociologue, de socialisation aux études universitaires. Et puis, ce qui va se passer, c'est grande panique, c'est que ces jeunes femmes qui font des études, à la fin des études, elles veulent plus se marier, en fait. Et elles veulent plus retourner au foyer, parce que faire des études à l'époque, c'est pas du tout pour l'émancipation des femmes. Hein, c'est juste pour que les hommes aient des épouses éduquées, etc. Mais ces jeunes femmes-là ne veulent pas retourner au foyer, et elles vont, certaines, se mettre à habiter avec des copines, quelles que se sont faites à l'université. Et là, il y a la grande panique morale aux États-Unis qui est, c'est le lesbianisme, en fait. Et là, on va pathologiser le crush. Donc là, on est début 20e.
Oui, dans les années 30, c'est ça, hein, à peu près, début 20e, mais dans les années 30, à peu près.
Oui, c'est ça. En fait, c'est du début 20e jusqu'aux années 30 où il y a la pathologie du crush. Alors, par exemple, c'est des articles dans des journaux féminins où on essaye d'apprendre aux mères à reconnaître les symptômes de la crushity. Et là, c'est une maladie, comme nostalgie tout à l'heure, en fait. Et tout à l'heure, vous parliez de la chanson de Frank Sinatra. Moi, je pense que ça a été une façon d'hétérosexualiser le crush, en fait, de dire bon voilà, c'est Sinatra qui chante et il chante pour là les crushs qu'il éprouve, ce sont pour des femmes. C'est repris dans plein de comédies musicales et je pense que c'est une façon de remettre le crush dans le bon arrangement des sexes, on va dire.
Ouais, et c'est vraiment, c'est frappant cette question là de crushitis, que ce soit carrément vu comme une maladie, et puis l'impact aussi finalement de la pop culture tout autour de ce phénomène là et des magazines féminins. Et on comprend aussi dans le livre que finalement la pop culture c'est aussi ce qui va façonner plus ou moins aussi on va comprendre aussi comment on perçoit l'amour aussi, comment est perçu l'amour. Ça façonne un peu nos représentations finalement de l'amour en général.
Ça c'est, pour moi, c'est vraiment au cœur de ce que j'avais envie de faire parce que, en fait, ce que j'avais dit aux étudiants, c'est que le crush par lui-même, on s'en fout en fait. Enfin voilà, le but n'est pas de décrire le crush, mais c'est de comprendre par le crush comment effectivement des choses aussi, je le disais tout à l'heure, aussi personnelles, individuelles qu'une émotion, que l'amour, qu'une attirance, s'est façonné par la société dans laquelle on vit, en fait. Et ce qui fait, enfin, une des instances de socialisation extrêmement fortes, c'est effectivement la culture, la pop culture, etc. Et ça, c'est, le crush, c'est juste un exemple. Mais par exemple, le flirt, tout à l'heure, je parlais du flirt. Quand on étudie le flirt, on se rend compte qu'à un moment hyper important du flirt, ce sont les années yéyé. Parce que là aussi, il y a les chansons. Enfin, ça va être les chansons de Françoise Hardy qui dit « Tous les garçons et les filles de mon âge », etc. Oui. Ou de Sylvie Vartan qui a, il y a une chanson où elle explique que ce soir, elle va être la plus belle pour aller danser et qu'elle a coiffé ses cheveux, cousu sa robe et que les cheveux vont être décoiffés, la robe chiffonnée. Et en fait, on voit comment cette culture yéyé dans les années 60, elle va diffuser le modèle d'une nouvelle pratique culturelle adolescente qui est, et c'est une révolution, enfin on n'imagine pas la révolution que c'est à l'époque, qui est que c'est autorisé d'aller au cinéma avec un garçon, alors qu'on est une fille, ou avec une fille, qu'on est un garçon, parce que tout ça est quand même très hétérosexuel, hein, d'aller au cinéma avec quelqu'un, d'aller danser avec quelqu'un, de s'embrasser, d'avoir des caresses plus ou moins poussées, mais attention, faut surtout pas avoir de pratiques sexuelles, enfin de pénétration, enfin voilà, parce qu'il n'y a pas de contraception, mais c'est autorisé d'avoir ce moment-là avant le mariage et avec quelqu'un qui sera pas votre mari ou votre femme. Et ça, c'est hyper révolutionnaire. C'est de se dire que on a le droit d'avoir des histoires, des petites aventures. En tout bien tout honneur, encore une fois, il n'y a pas la contraception à l'époque, et c'est une pratique culturelle adolescente, en fait. Donc c'est arrivé pour le flirt, pour crush, oui, bien évidemment, c'est Netflix aussi qui véhicule ce modèle-là, les chansons, etc. Mais de façon générale, hein, quand on réfléchit aujourd'hui sur l'influence des produits culturels, par exemple, quand on parle d'amour toxique, c'est la même chose. Quand on se dit, mais est-ce que nous, on n'a pas été biberonnés à une image de l'amour-passion où on meurt par amour, et d'ailleurs c'est toujours les femmes hein, qui meurent par amour, c'est rarement les hommes en fait, et toutes ces voilà tous ces films, ces séries Gossip Girl ou la littérature, voilà tous les bouquins qui nous ont fait penser que ça c'était l'amour, en fait. Que l'amour, c'est d'être hyper malheureuse pour quelqu'un, c'est d'être hyper jalouse, parce que ça prouve que l'autre, s'il est jaloux de nous, c'est qu'il, ça prouve que, qu'il nous aime. Mais pas du tout, en fait. Hein. C'est pas du tout.
Et alors, aujourd'hui, le flirt n'existe plus du tout, ou enfin, comment on peut le comprendre, justement, c'est vraiment propre à une époque, le flirt, ou finalement, c'est vraiment deux définitions différentes en fonction de comment on perçoit l'amour, l'amour romantique ou l'amour plutôt libéré des injonctions du romantisme.
Oui. Alors, le flirt, en fait, c'est vraiment intéressant, l'histoire du flirt. Et alors là, je me réfère vraiment à un livre écrit par une historienne qui s'appelle Fabienne Castarrosas. Ouais. Donc, je reprends vraiment ce qu'elle a fait. Hein. Moi, je n'ai pas fait l'enquête sur le flirt. Et en fait, elle montre comment… Donc, je le disais, le flirt, ça revient des États-Unis vers la fin du 19e. Et elle dit, fin des années, vers 1970, en fait, le flirt disparaît. Alors, on peut dire, mais si, on emploie encore le terme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va l'employer de façon métaphorique. On va dire, il flirte avec la mort. Enfin, voilà, il flirte avec le danger, mais je suis pas sûre que, alors, sauf à vouloir être très surannée, que quelqu'un dirait « Ah, bah j'ai un flirt » ou bien « Ah, bah tiens, t'es en train de flirter enfin, ». Vous voyez, voilà, ça date un peu. Et Fabienne Castarrosas, elle explique que l'évolution du terme, et c'est pour ça que ça m'intéressait par rapport à crush, elle dit c'est l'histoire du rapprochement des corps. Alors, elle resitue ça, elle dit « Rappelons-nous, fin 19e, quand on est une jeune fille bien élevée, on n'a jamais été toute seule avec un garçon ». Même quand vous êtes avec votre cousin Germain, vous n'êtes jamais toute seule et puis vous l'appelez par Monsieur Machin, enfin vous dites pas le prénom, vous voyez, etc. Et elle raconte que quand on éduque une jeune femme, on lui dit que dans une interaction avec un jeune homme, il faut qu'elle regarde l'épaule. Même si vous croisez le regard, déjà c'est trop en fait. Et le flirt, ça va être l'histoire du rapprochement. Et au début, fin 19e, flirter avec un garçon, c'est juste le regarder dans les yeux, en fait. Enfin, voilà. Ou c'est juste avoir à avoir un langage un peu à double, enfin, vous voyez, à double sens. Ouais. Et puis, petit à petit, ça va être effleurer un poignet, effleurer une cheville. Et vous faites ça. Déjà, si on voit que vous faites ça, votre réputation, elle est foutue. Voilà, vous ne pouvez plus trouver de bons partis dans les bons milieux. Et elle montre comment, au fur et à mesure du temps, c'est ce rapprochement. Et pourquoi, du coup, selon elle, ça s'arrête en 1970, dans les années 70, c'est que là arrive la contraception, en fait. Donc là, les corps peuvent se rapprocher et il n'y a plus tout ce jeu de rapprochement, en fait.
Et alors, par rapport au crush, vous dites, il s'agit surtout d'expliquer aux parents le sens du mot, mais il suscite aussi nombre d'articles tendant à le distinguer de l'amour, le vrai. Il se réfère à l'attraction physique. C'est comme ça qu'on pourrait le définir, finalement, une attraction physique?
Alors, c'est même plus compliqué que ça, parce que ça a été des définitions que j'ai trouvées, j'ai cherchées. Mais nous, ce qui nous avait frappé avec les étudiantes et étudiants, c'est que... passer le grand éclat de rire comme quoi je connaissais pas le mot, je leur avais dit mais c'est quoi la définition? Et y en avait pas deux qui étaient d'accord, en fait. Et quand on faisait les entretiens, il y avait tout un éventail de définitions. Donc physique peut-être pas, mais en fait il y avait quand même l'idée de l'attraction, d'être attiré par quelqu'un. Et ce qui arrivait beaucoup dans les entretiens, et ce qui, je pense, est une spécificité française qui a pas du tout dans le sens anglo-saxon, c'est l'idée que la personne pour laquelle on éprouve le crush est pas au courant, en fait. Et que le but, et c'est pour ça qu'attraction physique, c'est peut-être pas suffisant comme définition,
parce que vague.
Là ce qui arrivait beaucoup dans les entretiens, c'est que le but, c'est pas du tout que ça se concrétise, en fait. Que à la limite, c'est bien plus rigolo quand la personne n'est pas au courant. Et puis, on va en discuter avec les copines, etc. Je dis copines à dessein, hein. C'est beaucoup plus avec les copines qu'avec les copains.
Ouais.
Mais on en discute beaucoup dans la bande. Et presque, c'est ça qui est plus important que de concrétiser. Et si ça, on concrétise, c'est plus un crush, d'ailleurs.
Ok, oui, c'est quand on concrétise, c'est dans le sens où on va exprimer ses sentiments, où on va
cacher les sentiments, essayer de sortir avec la personne, d'avoir une relation avec la personne.
D'accord, ok. Et il y a un passage aussi qui revient à l'anthropologie de Marcel Mauss sur le crush, et qui fait une comparaison finalement avec les rites de deuil. Alors ça m'a un peu... je me suis dit, oula, quel est le lien en fait entre les deux?
Oui, alors c'est justement, c'était souvent quand je commençais mon cours, je leur disais, bon, on va travailler sur le crush et puis on va faire sur le crush ce que Marcel Mauss a fait sur le deuil. Donc, les étudiantes et étudiants, ils étaient un petit peu saisis. Ouais. Et en fait, Mauss, il explique que… il travaille sur des sociétés étranges, je ne sais plus si c'est australienne, bon bref, c'est loin en tout cas. Et il montre qu'il y a des rites de deuil. Donc les rites, c'est il faut que certaines parties certaines catégories de la population profèrent une certaine quantité de cris à certains moments de la journée. Donc des rites très codifiés. Et ce qu'il explique, mais on pourrait dire la même chose de nos enterrements, hein, quelle que soit la religion ou la cérémonie qu'on choisit. Nous aussi, on a des rites, on a des cérémonies, etc. Et ce qu'il explique, c'est que, la cérémonie n'empêche pas la sincérité des sentiments. C'est pas parce qu'on pleure à tel moment, etc., qu'on ne ressent pas ce qui se passe. C'est pas parce que c'est codifié que ce n'est pas ressenti. Et deux, il fait la comparaison avec un langage. Et il dit, l'expression des sentiments, c'est le titre de l'article, hein, l'expression des sentiments, c'est un langage. Et ça n'a de sens que parce que les autres comprennent le langage. Et effectivement, si aujourd'hui, quelqu'un à un enterrement se mettait à proférer une certaine… si on importait un rite d'un autre enterrement dans nos enterrements à nous, on ne comprendrait pas, en fait. Donc, il dit… c'est un langage, donc ça n'a de sens que parce que tout le monde connaît le langage, et ça n'a de sens aussi que parce que c'est collectif. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'une émotion, un sentiment, quand bien même il est individuel, il est ressenti de façon individuelle, il a un sens aussi, comme un langage, il a un sens de communication collective. Et donc voilà, c'est pour ça le parallèle entre les expressions du deuil et le crush, c'est ça, c'est de dire le crush, bah, on peut peut-être l'attraper aussi comme un langage des jeunes contemporains qui expliquent que moi, je connaissais pas, parce que je fais pas partie de la jeunesse contemporaine et donc je ne connais pas leur langage. Donc là, il y avait vraiment comme une langue étrangère en fait. Quelqu'un, voilà. Et l'autre chose, c'est que bah, le langage, il permet de se comprendre entre soi et il permet de faire groupe. Il permet de faire groupe et de dire qu'on fait partie de cette jeunesse contemporaine et qu'on est de cette génération là.
Donc, il y a vraiment des codes que vous avez du coup cherché à comprendre auprès de cette jeunesse de 25 à, je ne sais plus exactement la tranche d'âge.
Oui, c'est ça, c'est du lycée, mais il y avait quelques collégiens, donc c'est de 15-16 ans, ouais. Enfin 14 ans à 25 ans. Ouais.
D'accord, donc vous les avez invités à ce qu'on lit à la fin du livre pour un séjour comme ça avec tenir des entretiens qualitatifs avec eux. Ils étaient combien au total?
Alors, il y a eu plusieurs méthodes en fait. Il y a eu une méthode très classique qui était de faire des entretiens, de chercher des lycéens. Donc en tout, on parce que les étudiants, ils ont fait des entretiens aussi. Ouais. Donc on en a fait une soixantaine. Donc le truc le plus classique et le plus courant, c'était de faire des entretiens avec des lycéens, lycéennes qu'on trouvait. Ce qui a été aussi intéressant, c'est des étudiants qui ont fait avec leurs petits frères ou petites sœurs ou leurs cousins ou cousines. Et ça, c'était pas mal. Je me suis rendu compte la différence, c'est que quand moi je fais un entretien avec un ado, je vois bien qu'il me parle pas du tout de la même façon que quand il y avait des entretiens faits par les étudiants avec leurs frères ou leurs sœurs. Et même les entretiens que les étudiants faisaient avec des collégiens lycéens qu'ils connaissaient pas, il y avait même là, alors que les étudiants sont, voilà, ils sont pas aussi vieux que moi, mais il y avait pas cette familiarité que quand c'était avec leurs frères et sœurs. Donc là, c'était des entretiens vraiment où les frères et sœurs, ils parlaient avec leurs termes habituels, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Et l'autre moment, ça a été je me suis dit, il faudrait quand même que je fasse avec des jeunes adultes. Et là, j'ai pris un peu la facilité. Hein. Il y a tout un groupe, c'est juste les amis de mes enfants en fait, qui venaient en vacances. Et moi, je leur ai dit, moi, je vous fais à manger, etc. Mais la condition, c'est que vous devez faire un entretien avec moi. Voilà. Et puis après, je suis partie de ce groupe-là. Et après, ils m'ont dit, mais il y a un tel. Et c'est comme ça qu'après, j'ai élargi en fait.
D'accord. Et donc, c'est comme ça que vous avez pu aussi dresser un peu une typologie des crushs, de comment se forme un crush, ce qu'il implique aussi dans la socialisation des jeunes. C'est un sujet de conversation important. Si on n'a pas de crush sur lequel discuter, on discute de rien finalement.
C'est ça. Mais en fait, c'est ça qui m'intéressait. Enfin, il y a deux choses. Il y a à la fois, parce que la difficulté, quand je disais... C'est difficile de poser des questions aux gens sur leurs émotions et leurs sentiments, en fait, parce que, est-ce que quand je dis quelque chose, eux, ils comprennent la même chose? Enfin, c'est très compliqué. Et il y a un sociologue qui s'appelle Michel Bozon qui a travaillé, il a fait un livre qui s'appelle « Pratique de l'amour », et il dit qu'on veut travailler sur l'amour, faut travailler sur les pratiques. Qu'est-ce que ça fait faire, en fait? Et donc, je me suis dit, et comme justement, après avoir comparé avec le flirt, je me disais, le flirt, c'est pareil. Qu'est-ce que ça fait faire? Ça fait acheter les disques de Françoise Hardy, de Johnny Hallyday. Ça fait acheter Salut les copains. Ça fait aller au cinéma. Ça fait aller dans des booms, etc. quoi. Et je me suis dit, essayons d'attraper le crush par les pratiques. Qu'est-ce que ça fait faire, le crush? Donc ça, c'était la première chose vraiment importante. Et la deuxième chose, c'était les interroger sur les règles. C'est quoi les règles? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Est-ce qu'on peut être en crush sur tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses interdites? Enfin, un peu comme Moss et le deuil, là, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, cette idée-là aussi, qu'il y a des règles. On fait pas n'importe quoi, en fait. Et donc, ça a été un peu les deux axes des entretiens qu'on passait. Et les pratiques, oui. Enfin, là, il y a plein de choses qui sont arrivées et qui montrent comment le crush, voilà, une émotion, c'est à la fois quelque chose qu'on ressent, mais c'est aussi surtout, effectivement, des heures passées à discuter, Des heures passées sur les réseaux sociaux aussi, avec le fait de stalker les comptes des crushs qu'on éprouve, etc. etc. Le fait de prendre des surnoms, de dire « Ah bah tiens, un tel, on va l'appeler Oreo, on va l'appeler lasagne, on va l'appeler courgette, enfin n'importe quoi. » Voilà. Et en plus, souvent, c'est des surnoms qui sont un peu ridicules, j'ai rien contre…
Pour passer incognito, hein, mais... on est d'accord, c'est ça.
Oui, c'est
pour
ça.
Pour éviter que ça se sache, ouais.
C'est ça, mais de donner un surnom, et donc ça, c'est une pratique, et puis aussi de dire à qui je vais dire qui est le surnom. Donc, y a une multitude de pratiques qui sont derrière ce mot crush, en fait. Et ça, c'était passionnant, en fait.
Et alors, qu'est-ce qui... parmi les profils, on voit aussi qu'il y a différentes manières, du coup, d'aimer aujourd'hui et de voir les relations. C'est intéressant aussi de voir, par exemple, moi, je pense au cas de Nemo. Dans le livre, est-ce que vous pourriez en dire un mot justement sur cette manière de entre guillemets relationner? C'est hyper intéressant aussi par rapport au thème qu'on aborde aujourd'hui.
Oui. Ça, c'est vraiment important, c'est qu'on se rend compte que et crush, c'était vraiment finalement la manifestation de ça. C'est qu'il va y avoir beaucoup de sens différents et on se rend compte qu'effectivement, alors c'est pas nouveau, hein, mais qu'il y a il va y avoir des façons de relationner. Hyper comment traditionnel, genré. Je le précise parce que pour pas qu'on pense que ce que je vais raconter sur Nemo est général. En fait.
Oui.
Et il va y avoir aussi les innovations. Donc effectivement, Nemo, il illustre ça. Donc Nemo, c'est une personne qui fait partie de la communauté queer et qui explique que pour lui, crush. Lui, il réfléchit justement à dissocier les stéréotypes habituels qui sont associés à l'amour et à l'amitié. Et notamment la frontière très, très étanche qu'on a encore entre amour et amitié et la hiérarchie qu'on place entre amour et amitié. Et il y a un livre que moi j'ai lu après parce que le bouquin venait de sortir ou il était en train d'être imprimé. C'est le livre d'Alice Rebaud, « Nos puissantes amitiés ». Et ça m'a vraiment fait écho avec les propos de Nemo parce que Nemo, il dit mais pourquoi l'amour, ça serait la passion et pourquoi la passion, elle n'est pas dans l'amitié. Et du coup, crush, pour lui, il me dit mais crush, ça peut être quelqu'un qui passe et puis je peux avoir des crushs amicaux, mais hyper intenses et bien plus intenses que une relation qui sera plus affective, etc. Donc voilà, lui, il y avait vraiment cette idée de, grâce au mot crush, de réfléchir un peu à ces répartitions sur la carte des émotions quelque part ou la carte des attachements sur cette répartition entre l'île de l'amour, l'île de l'amitié, enfin voilà, qui sont très très séparées souvent et aussi cette suprématie qu'on met dans notre société, cette hiérarchie de l'amour sur l'amitié. Et Alice Rebaud, elle dit quelque chose qui est très juste. Hein. Elle dit comment ça se fait que, notamment les filles, on a plein d'amis. Et puis, à un moment, quand on se met en couple, les amis, elles disparaissent. Alors, c'est peut-être plus vrai dans la génération avant… Enfin, voilà, ma génération. Et c'est peut-être moins vrai dans la génération d'aujourd'hui. Mais très classiquement, c'était ça. Le temps des copains, le temps des copines, c'était l'adolescence et la jeunesse. Et puis après… Après, c'est bon, on est casé. Mais même dire on est casé, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Voilà, voilà.
Et aussi, il y a des degrés de crush. Il y a des crushs qui peuvent un peu soit durer trop longtemps et ça devient un crush toxique pour certains, certaines. Et comment on explique aussi cette perception-là du crush?
Oui, alors ça fait partie on parlait des règles et des normes. Hein, c'est que le crush, à la fois, ça peut paraître très léger. Et en fait, c'est hyper normé. Et donc, effectivement, moi, je leur disais, mais ça doit durer combien de temps, un crush, ça dure combien de temps? Et c'était 2-3 mois, en fait. Mmh. Et donc, il y a celles, alors je dis celles, parce qu'on m'a toujours parlé de filles, celles qui ont trop de crushs, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des crushs tous les 2 jours et puis elles en ont 10 à la fois. Et ça, c'est quand même pas très bien, en fait. Alors, je mets des guillemets, hein, c'est pas
oui, c'est perçu
c'est
comme ça, socialement.
Franchement, elles exagèrent. Et puis, alors, le crush toxique, c'est encore autre chose. C'est le crush, soit qui dure trop longtemps, soit qui est beaucoup trop engageant émotionnellement. C'est celui où vous pensez plus qu'à ça, en fait. Et vous passez des heures et des heures à stalker sur vos réseaux sociaux. Et là, c'est toxique parce que ben là, c'est plus léger du tout et il y a une charge mentale qui est extrêmement forte. Mmh. Mais oui, c'est hyper normé. Alors, c'est normé dans le temps, la durée. C'est normé dans l'âge aussi. Il y a un moment où vous êtes… moi, c'est des jeunes femmes de 22, 23 ans qui m'ont dit « Ouais, mais là, bon, on commence à me dire que je suis pas mature parce que j'ai 23 ans et je continue à avoir des crushs, en fait. » Donc, il y a aussi une… voilà, il y a un âge du crush et puis un âge où on n'est plus censé avoir de crush et on est censé passer aux choses sérieuses, en fait. Les choses sérieuses, c'est… bon, bah, là, je cherche quand même à être en couple, voilà. Ouais. Et puis il y a des interdictions. On n'a pas le droit d'être en crush sur l'ex-crush d'un copain ou d'une copine, etc., etc.
Ouais. Très bien. Mais écoutez, on va faire juste une petite pause musicale avec votre proposition, Clara Isé, Lettre à M, et on se retrouve juste après.
Aujourd'hui, tu aurais une année de plus, et moi, peut-être, je serais tout aussi perdue, mais je me réjouirais de ta venue. Aujourd'hui, on aurait fêté le printemps qui arrive le jour de tes 56 ans, et on aurait bien ri pourtant. Aujourd'hui, j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer, où je ne voudrais plus t'en lasser. Je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger? Aujourd'hui tu aurais quelques cheveux blancs, et moi peut-être le visage moins enfant, on rirait de ce qui change avec le temps. Aujourd'hui on se dirait nos éblouissements, tu offrirais ton visage au vent, oh les cœurs notre amour est grand. Aujourd'hui j'ai pensé, mais va-t-il arriver ce temps espéré où tu cesseras de me manquer, où je ne voudrais plus t'en lasser. Je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année, je pense à toi, as-tu le cœur léger? À toi, as-tu le cœur léger? Je pense à toi tous les jours de l'année. Je pense à toi, as-tu le cœur léger?
De retour sur Radio Primitive avec Christine Détré sur, pour parler ensemble du crush. Alors, on en a parlé juste avant cette petite intermède musicale. La question du crush aussi est impactée par l'espace numérique, par nos pratiques du numérique finalement. On va stalker, les jeunes vont stalker. Je dis « on », mais voilà. Je me vends toute seule.
je vais avoir une prochaine enquêtée bientôt.
Moi, je rentre pas dans la classe d'âge.
Les enquêtes, ça s'élargit. Hein,
c'est, oui. Mais moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est en fonction des espaces numériques, le crush ne va pas être vu de la même manière. Donc, on va avoir des espaces où on va aussi chercher, par exemple, dans un lycée, les crushs vont se dévoiler. On va dire, un tel me plaît, quel est son prénom, des groupes Facebook par exemple, plus Facebook maintenant, mais peut-être d'autres groupes sur Instagram ou d'autres réseaux. Voilà. Et il va y avoir aussi l'espace numérique masculiniste, où pour le coup le crush va être vu comme un peu une faiblesse finalement, une vulnérabilité. Est-ce que vous pourriez en dire un mot juste?
Oui, tout à fait. Alors, le fait que sur les espaces masculinistes, le crush est vu comme une faiblesse, une vulnérabilité, ça dit beaucoup de… C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de Nemo et des réinventions queer, j'avais la précaution de dire attention, faut pas généraliser. Mmh. Et notamment, Alors, c'est vrai sur Crush le montre, mais c'est vrai dans plein d'autres manifestations. Oui. Il y a pas du tout une disparition de l'homophobie ou du masculinisme. Mm. Et c'est finalement une sorte de continuité entre la façon dont on continue à éduquer les garçons, en fait, nos garçons. Et puis, mm-hmm. alors, ça peut paraître bizarre que je dise que c'est une continuité jusqu'à ces propos hyper violents dans les espaces masculinistes. Ouais. Mais pour moi, il y a une vraie continuité. Parce que quand un jeune homme, moi, on interrogeait des jeunes hommes, des jeunes garçons, et on leur disait, bah, t'as des crushs? Et puis ils disaient oui. Et puis on disait, bah, t'en parles? Ah, bah, non, c'est pas possible. Je peux pas en parler. Voilà. Je peux pas en parler à la bande de copains parce que ils vont se moquer de moi, etc. Mmh. Donc ça, c'est, bien évidemment, on va pas dire que la bande de copains est masculiniste, mais on voit comment, en tirant le truc un peu plus loin, eh ben, on arrive à ces moqueries terribles, ces insultes, effectivement, de gens qui répondent à des pauvres jeunes hommes. Donc, on se demande pourquoi ils ont été posés la question sur ces espaces-là, en fait, qui dit, je sais pas, elle m'a regardé, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et là, ils se font, mais pourrir, en fait. Mm. Et c'est la vraie opposition toujours entre, t'es un mec, c'est le sexe qui compte, en fait. C'est le sexe qui devrait t'intéresser. Et pas, cette imagination, ces sentiments, ces émotions, etc. Et ça, cette ligne, elle, genrée, elle existe toujours. Voilà. Pensons à quelles émotions sont autorisées à un petit garçon dans une cour de récré, en fait. Un petit garçon qui pleure, est-ce que les copains vont être compatissants avec lui ou est-ce qu'ils vont se moquer de lui? Un petit garçon qui dit qu'il a peur, et je dis les copains et copines, mais aussi dans la famille, hein. Il y a des familles où on dit à un garçon, bah non, un garçon, ça n'a pas à avoir peur. Un garçon, ça n'a pas à pleurer. Mmh. Un garçon, ça n'a pas à exprimer ses émotions, ses sentiments, etc. Et il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Bell Hooks. Et elle fait dans son livre La volonté de changer, elle interroge les masculinités. Et elle dit, elle retourne le truc. Elle dit, mais de quelles compétences émotionnelles on prive nos garçons, en fait? De quelles compétences émotionnelles on prive les garçons d'une société, les jeunes hommes d'une société et les hommes d'une société?
Donc, c'est autant, finalement, un terrain d'émancipation qu'un terrain de reproduction aussi de certaines normes, enfin, de l'hétéronormativité, finalement, aussi.
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que parfois c'était un peu compliqué pour moi de définir, parce qu'on se rend compte que finalement, selon la façon dont les gens vont s'approprier le terme et les pratiques qui vont avec, ça peut être effectivement soit un espace d'invention, ou bien notamment des jeunes femmes aussi. Ça, c'était quelque chose d'assez flagrant. Des jeunes femmes qui, dans les entretiens, elles me disaient, j'ai eu un crush, etc. Puis je me rendais compte qu'elles pouvaient me parler d'une fille, et puis après, elles me parlaient d'un garçon, puis elles revenaient à une fille. Et donc, dans l'espace de l'imaginaire, en tout cas, il y avait la possibilité d'avoir des crushs sur des filles quand on est une fille. Ça, jamais c'est arrivé dans un entretien de garçon, en fait. Alors, ça veut pas dire que les garçons ont pas de crush sur des garçons, mais ça veut dire que, pour le dire à une sociologue, c'est très compliqué, en fait, pour se l'avouer, en fait. Et que les seuls qui m'ont dit qu'ils avaient des crushs sur des garçons, c'était des jeunes hommes qui, eux, se déclaraient homosexuels, en fait. Donc, voilà, il y avait une identité qui était déjà posée. D'accord. Mais la fluidité, comme ça, de l'attirance ou de l'émotion, elle n'était pas du tout dissible de la même façon pour les garçons que pour les filles.
D'accord, ok. Donc, il y a quand même un gros terrain pour réinventer l'amour. Réinventer l'amour même à notre époque, quoi. Enfin,
de toute façon, il faut. J'espère bien que voilà, votre génération, celle d'après, ils vont, enfin, continuer à desserrer ce corset hyper serré. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent, hein, quand tout à l'heure je parlais de socialisation par les produits culturels, vous avez parlé de pop culture, oui. Et les interrogations qui sont aujourd'hui sur la culture de l'amour toxique, tout ce qu'on dit aussi sur la culture du viol. Voilà, il y a des choses qui bougent et qui se fissurent, mais un, c'est lent, Et deux, c'est pas du tout dans tous les espaces sociaux, en fait. C'est pas du tout dans tous les espaces de la société. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, enfin, de rappeler qu'il y a toujours des endroits où, où le masculinisme fait rage, où l'homophobie fait rage, et où il est pas bon d'être un petit garçon, sensible, en fait.
Oui, parce que finalement, même si bon, sur Netflix, on va avoir les nouveaux codes qui s'imposent aussi et qui transparaissent, mais il n'y a pas forcément non plus tous les codes qui sont utilisés. Les codes du crush, par exemple, ne sont pas forcément tous représentés dans les séries. Je pense aux séries américaines ou d'autres séries.
Oui, et puis souvent, en fait, ce qui nous avait frappé, alors bon, là, je n'ai pas fait une étude exhaustive, hein, mais c'est que souvent, quand c'est dans une série, le crush, on a un crush, et puis après, finalement, on va être en couple avec la personne, en fait. Mm. Et à la fin du livre, je dis, je sais plus si je l'ai mis d'ailleurs, parce que y a tellement de versions du livre avant d'arriver au livre final que je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Mais je me souviens qu'à un moment, j'avais dit, si un jour les archéologues des temps futurs, ils regardent nos films et nos chansons et se disent à partir des films et des chansons, c'était ça le crush du début du 21e siècle, ils vont tomber complètement à côté de la plaque en fait. Parce que quand on regarde la majorité des teen movies, bah, vous avez un crush et puis bon, vous n'allez pas le dire et puis en fait vous allez le dire et puis finalement vous allez être en couple avec la personne en fait. Et dans les entretiens, ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas, le crush, c'est fait pour être en couple en fait.
Oui, oui. Ok, ben on va encore faire une petite pause musicale avec Zao de Sagazan, Mon Inconnu, et on se retrouve juste après.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
De retour sur Radio Primitive avec Christine Détré pour finir cet entretien sur Le Crush, fragment du nouveau discours amoureux, un ouvrage paru en 2024 aux éditions Flammarion. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait du crush? Qu'est-ce que les jeunes vont faire du crush? On vient d'écouter Zao de Sagazan. Elle a plusieurs fois déclaré « Dès que j'ai un crush, j'écris une chanson. Tous mes crushs ont une chanson pour eux, ça me sert juste de moteur. Sinon, je m'en fous des garçons. »
Voilà, bah c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson, en fait. La chanson d'avant, je l'avais choisie pour autre chose, on n'en a pas parlé.
Non,
j'avais choisi parce que mon enquête précédente, elle était sur un secret de famille qui était la disparition de ma mère. Mmh. Et comme Clara Isée, Lettre à M, elle parle à sa mère. Donc, à chaque fois, voilà, j'essaye de…
C'est une chanson qui vous touche particulièrement. D'accord.
Oui, tout à fait. Et alors, celle-là, Zao de Sagazan, ça me touche aussi beaucoup, mais là, plus de façon humoristique, en fait. Alors, effectivement, quand j'avais entendu ces interviews où elle parlait de crush, je disais, mais c'est exactement ça. Donc, elle, justement, Zao de Sagazan, c'est une artiste. Elle a pas non plus 21 ans. Enfin, bon, cela dit, elle doit pas être très vieille non plus, hein, mais bon, voilà, elle a sa carrière. Et ça a entré en écho avec des jeunes femmes que j'avais interrogées qui me disaient, le crush, c'est trop dur, c'est trop de charge mentale, c'est trop difficile. Et l'une allait même voir un psy parce qu'elle disait, moi, j'en peux plus. Enfin, l'idée de se perdre, de se dire, mais je suis qui, moi, en fait, à vouloir aimer ce qu'aime tel ou tel crush, quel est mon vrai moi? Et elle me disait, une façon de s'en sortir, c'est justement d'aller faire de l'art autour de ça. Donc, l'une avait tout un projet photo autour de cette idée du crush, et l'autre, elle est en train de faire un docu-fiction sur le crush, où elle interroge ses copines, et puis en même temps, il y a une histoire, etc. Et elle m'avait parlé de Sophie Kahl, qui elle aussi avait fait tout un truc où elle suivait un inconnu jusqu'à Venise, etc. Et ça, je trouvais ça intéressant. C'est comment ces jeunes femmes, qui en plus sont aussi très nourries par les lectures féministes, par les podcasts féministes, elles ont toutes lu Mona Chollet, Réinventer l'amour, etc. Et comment elles essayent de se réapproprier, le crush, et puis de reprendre le pouvoir quelque part. Et je trouve que Zao de Sagazan, quand elle dit j'en ai rien à faire, mais moi ça me sert à faire mes chansons, bah c'est aussi une prise de pouvoir.
Ouais, c'est hyper intéressant, et c'est aussi le côté réinvention finalement de ce qu'on va faire de la perception romantique, de l'amour romantique un peu surannée, qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui en fait. Et c'est hyper intéressant. Après, à la fin, vous concluez que ça reste compliqué comme sujet à cerner, parce que c'est aussi un sujet en mouvement et en perpétuelle évolution aussi. Le mot crush est apparu en mai 2023 dans Le Petit Robert, tout de même. Et aujourd'hui, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est finalement? Est-ce qu'on a épuisé le sujet? Je pense pas. Enfin, j'imagine pas. Enfin.
Non. Et puis surtout qu'il bouge. Enfin, c'est comme flirt qui change de sens en un siècle. Et je pense qu'aujourd'hui, crush il faudrait continuer les entretiens. Et moi, mon interrogation, c'est est-ce que il va garder ce sens de secret, en fait, le fait que on éprouve quelque chose pour quelqu'un, mais que la personne concernée, c'est pas important qu'elle soit au courant, et c'est plus important d'en rigoler avec les copines, de faire de toutes les pratiques. Et ça je me dis, voilà, à force de voir crush partout dans les pubs, il y a plein de marques qui utilisent crush dans leur slogan marketing, etc. Est-ce que le sens, notamment il y a une marque de vêtements, elle dit votre prochain crush mode. Si on est vraiment sur la définition, mon crush mode, je l'achète pas en fait. Donc je l'achète pas la robe pour qui j'ai un crush, puisque je vais pas dire. Donc là c'est complètement à côté de la plaque en fait. Mais est-ce que du coup crush ça va pas devenir coup de cœur, tout simplement entre guillemets quoi.
Ouais, et puis aussi l'impact des réseaux sociaux, le fait qu'on puisse aussi avoir des crushs variés, divers et variés, avec les applications de rencontres qui se développent aussi chaque jour. On a Tinder, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Est-ce que vous en avez parlé justement avec ces jeunes lors de ces entretiens, de ces applications de rencontres?
Justement, oui, tout à fait. Mais alors, eux, c'était pas vraiment dans la... C'était pas l'idée que les applis de rencontre permettent les crushs. C'est-à-dire, il y a une appli de rencontre qui s'appelle Crush, je crois, et qui permet, ou bien elle s'appelle pas Crush, mais elle permet de retrouver un crush, un peu comme moi de mon temps, il y avait les petites annonces dans Libération. Je t'ai vu dans le métro.
Oui, il y a Happen, c'est quand on croise la personne. On peut croiser la personne,
Voilà. Mais dans les entretiens, en fait, moi, ce qui a été dit souvent, c'est que justement, le crush, il vient contre les applis de rencontre. Et il y en a un qui m'a dit, mais tu vois, avec les applis de rencontre, bah finalement, tu te retrouves avec une personne et puis le lendemain, enfin, tu passes la nuit avec, tu couches avec et puis le lendemain, tu sais à peine son prénom, en fait. Mmh. Et il me disait, tu vois, un crush, c'est bien parce que tu vas au resto avec. Et voilà, donc il y avait comme une… Il disait une nécessité de remettre de l'imaginaire et de remettre presque du temps long, en fait, du temps long, quand l'appli de rencontre, elle raccourcit les temps. Et c'est pour ça que c'est intéressant, quand je parlais tout à l'heure du flirt, qui était l'histoire du rapprochement des corps, là, je me suis dit, c'est comme si le crush, il rééloignait un peu les corps. Il remettait du temps et de la distance entre les corps et il remettait… de l'imaginaire, du fantasme, du rêve. Et c'est pas que positif, hein, parce que quand je disais tout à l'heure, enfin, de toute façon, moi, j'ai aucun jugement sur rien, hein. J'ai pas de jugement sur les applis de rencontre, j'ai pas de jugement sur le fait de passer la nuit avec quelqu'un, de pas savoir son prénom, hein. Chacun fait vraiment comme il veut. mais dans les propos, il y avait vraiment, cette idée-là que le crush, ça remet du temps. Et parfois, quand ça vire toxique, c'est que là, ça prend trop de place, trop loin de la personne, quoi, quelque part.
D'accord, très bien. Mais écoutez, je pense que l'entretien touche à sa fin aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous auriez quelque chose peut-être à rajouter sur le sujet librement. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas.
Non, mais c'est merci vraiment déjà pour l'entretien parce que c'est vraiment un plaisir. Et puis moi, ça m'a vraiment montré la difficulté de la jeunesse d'aujourd'hui de composer avec toutes ces normes dont elle hérite depuis des siècles et des siècles et des siècles, et puis le courage de cette jeunesse. Enfin, voilà, on le voit bien avec MeToo, on le voit bien avec tout ce qui bouge, enfin avec le post-MeToo, et donc le courage d'aller réinventer des choses. Et on sait bien que quand on réinvente, c'est compliqué, ça bouge, c'est on se met dans des terrains instables, mais il y a tellement à gagner, quoi. Voilà, à s'affranchir de ces normes s'affranchir des normes, c'est pas dire qu'il faut pas des règles, il y a toujours des règles, mais réfléchir à toutes les hiérarchies, les dominations, les relations de pouvoir qu'il y a derrière, quoi, la violence qu'il y a derrière, c'est surtout ça, en fait.
Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir aussi pour moi aujourd'hui d'échanger avec vous. Et puis, on va se quitter avec votre troisième proposition de chanson. Je ne sais pas si vous voulez expliquer ce choix. Ce sera Solane, l'oiseau.
Alors, oui, Solane, alors c'est comme quoi on apprend toujours. C'est une chanteuse que j'ai découverte très récemment par ma fille, hein, qui est étudiante. Donc là aussi, voilà, les adultes, écoutez vos enfants et voilà, quoi. Faut toujours discuter, etc. Et cette chanson, alors tout son, alors je sais pas si on dit encore disque aujourd'hui.
Ça se dit encore, on en a plein ici, hein, des disques.
Toutes ces chansons, je les trouve magnifiques. Il y en a vraiment magnifiques. Et celle-là, elle m'émeut vraiment parce que, voilà, je vais pas spoiler, mais c'est un oiseau à qui il arrive quelque chose et l'oiseau, il dit, mais faut pas regretter, quoi. Voilà, il faut vivre.
Super, bah écoutez, merci beaucoup, bonne journée à vous, à bientôt, et puis on se quitte en musique.
À bientôt, merci.
Je ne regrette pas mon nid, ou mon plumage tacheté de gris, qui vire maintenant au vermillon. Je ne verrai plus les saisons. Je ne regrette pas ma coquille, mon œuf, ma branche, le ciel qui brille. Je finis ma vie entre des crocs, moi qui l'ai commencé bien haut. Ma faim, je suis pas déçue, le chat m'a eu, on s'attendait. Jamais eu, on s'attendait. pas ma mère qui m'a dit méfie-toi de la terre. Ces fruits à pâte mais se payent cher, et tu es celui des vipères. Je ne regrette pas mon envie d'avoir faim et d'aimer la vie. Je n'ai pas vu le chat venir dans les hautes herbes de mes désirs. Ma faim, je suis pas déçue, le chat m'a eu, on s'attendait. Mon ciel, j'y ai vécu, j'en viens et j'y retournerai. Ma faim, je suis pas déçue, le chat m'a eu. Pas demain, je m'y attendais et c'est très bien. On vole tous en cercle ici-bas, on part, on y retournera, on part, on y retournera, on part, on y retournera.